CFM, en Tarn-et-Garonne, le mag.
Bonjour tout le monde, c'est l'heure de votre magazine en Tarn-et-Garonne, consacré au Tarn-et-Garonne. Et le jeudi, dorénavant, on parle politique avec les rendez-vous politiques et l'émission Politiquement Votre de Kader Youb. Salut Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Rodolphe Portelès, Parti communiste français, conseiller municipal d'opposition. Vous siégez également au conseil communautaire du Grand Montauban. Bienvenue à vous, Rodolphe Portelès.
Bonjour Kader, merci de votre invitation.
Merci de l'avoir accepté. Est-ce que, une première question d'ambiance, si je puis dire, est-ce que l'ambiance a changé justement depuis le départ forcé de Brigitte Barège au conseil communautaire et au conseil municipal?
Le maître mot de Axel de la Briolle, nouveau maire de Montauban, c'est l'apaisement. Voilà, je pense qu'on a eu des périodes difficiles dans le cadre de la relation entre l'opposition et la majorité, et notamment la première élue, donc Mme Barège. Donc aujourd'hui, effectivement, M. La Briolle s'inscrit dans un mouvement d'apaisement pour essayer de travailler plus collectivement et en prenant en compte un peu plus peut-être la parole de l'opposition.
Ouais. On va en parler de l'opposition, celle que vous représentez avec d'autres. Un mot sur cette condamnation, on y revient. Il y a une semaine, ici même, à ce même micro, Thierry Deville se déclarait plutôt confiant quant à l'appel interjeté par Brigitte Barège. Confiant sur cet appel, est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi?
Et moi, je laisse la justice suivre son cours. Hein. Donc, en première instance, Brigitte Barège a été lourdement condamnée.
Et 5 ans.
5 ans d'inéligibilité. Exécution provisoire. Hein, donc, c'est quelque chose qui est important, qui a autorisé la suspension de tous ses mandats. Une pénalité financière aussi. Donc, elle a fait appel, c'est son droit. Du coup, elle est de nouveau présumée innocente. Donc, il faut laisser la justice suivre son cours. Toujours est-il que M. Deville n'est pas à des incohérences près. Donc, sur le préjudice subi par la ville, il y a un mois et demi, c'était fin décembre. Donc, lorsqu'on intervenait en conseil municipal sur cette affaire et qu'on se proposait, M. Hillon, Mme Meignard et moi-même, nous porter partie civile en lieu et place de la ville, puisque la ville ne souhaitait pas se porter partie civile. Bon, M. Deville nous disait que c'était ridicule et que nous n'avions aucune chance d'aboutir. Or, le tribunal administratif nous a donné raison et effectivement nous a permis de nous porter partie civile. Mme Barège, du coup, s'est pourvue, renvoyer l'affaire sur le Conseil d'État pour casser l'avis du tribunal administratif. Et finalement, depuis hier soir, on a appris que le prochain conseil municipal de lundi soir, donc 12 avril, ouvrira le bal par une première délibération où finalement la ville se porte partie civile dans cette affaire. C'est la preuve qu'effectivement, chacun reconnaît qu'aujourd'hui, la ville a subi un préjudice à la fois d'image par rapport à cette affaire, et un préjudice financier, puisque effectivement, il y a des fonds qui ont été utilisés.
Alors ce changement de ton de la majorité, comment vous le traduisez? Est-ce que c'est un changement de logiciel, de paradigme? Est-ce que, par exemple, Axel de la Briolle veut couper les ponts avec Brigitte Barrette, parce que c'est un camouflet pour elle, non?
Alors, politiquement, oui, moi je dirais que c'est un espoir de clairvoyance dans cette affaire. Voilà, c'est de la clairvoyance qui est amenée dans ce dossier. Voilà, donc je laisse à Monsieur le maire le soin de dire comment il se positionne par rapport, lui, publiquement, par rapport à cette affaire. Voilà, en tout cas, moi j'y vois effectivement du bon sens et une façon peut-être de tourner la page, une page qui a duré assez longtemps sur Montauban, à mon sens en tout cas.
Alors, Rodolphe Portelès, nous avons débuté mardi un troisième confinement pour freiner l'épidémie de Covid-19. Est-ce que le président de la République et le gouvernement font ce qu'il faut, d'après vous ?
Alors, il faut beaucoup d'humilité. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période historique. Hein. Je pense que celui qui se posera en honneur de leçon aura tort, de toute façon. Voilà. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Je pense que le sentiment qui prédomine un petit peu pour tout le monde, c'est cette improvisation, c'est-à-dire au quotidien. Voilà, on a l'impression qu'un jour, on nous tient un discours, le lendemain, on nous tient un autre discours. Donc, effectivement, un sentiment un petit peu d'improvisation fond est exaspérant pour tout le monde. Il y a véritablement une gestion qui est difficile. Voilà, qui est difficile. Ils ont, au niveau du gouvernement, mis en place une stratégie qui finalement montre ses limites. Voilà, montre ses limites. Mais je serai très très humble dans les leçons à donner parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à faire, aujourd'hui, véritablement, ce serait de libérer les brevets de ces vaccins qui permettraient d'accélérer considérablement donc la vaccination.
Libérer les brevets, c'est-à-dire, vous pensez à Sputnik, par exemple?
Par exemple, mais de tout ce qui sort actuellement dans des grands consortiums pharmaceutiques internationaux et qui font de l'argent avec ces brevets, je crois qu'aujourd'hui, le vaccin est la solution qui permettra peut-être de sortir de cette crise et donc de façon à le fabriquer partout librement.
C'est-à-dire qu'en fait, vous souhaitez que les brevets soient dans le domaine public?
Absolument. Ouais. Je crois que c'est la solution. Faire de l'argent sur la santé du public, c'est quelque chose, moi, qui m'horripile, qui m'exaspère. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut un service public de la santé et libérer comme il faut ces brevets pour qu'on puisse effectivement vacciner le plus rapidement possible le plus grand nombre de personnes.
Est-ce que la ville de Montauban et le Grand Montauban, de manière générale, gère bien cette crise ?
Là, c'est pareil, ils le gèrent et c'est à mieux. Voilà, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Bon, voilà. Est-ce qu'on aurait fait mieux ? Est-ce qu'on aurait fait moins bien ? Je ne sais pas. Voilà.
Ouais, par exemple, est-ce que le volet social ? Le volet social, est-ce qu'il est...
Il y a des aides qui ont été aides qui ont été définies pour les entreprises, pour les soutenir. Il y a eu 1 million. Alors, on n'a pas tout l'affichage. Au niveau du Grand Montauban, pour soutenir l'économie. Il y a une aide pour les étudiants. Il y a eu effectivement des aides pour le portage de repas pour les personnes les plus fragiles. Donc, tout ça va dans le bon sens. Donc, loin de moi l'idée de critiquer tout ce qui pourrait être dans le bon sens. Après, peut-être qu'il y a eu du retard à l'allumage à un certain point. Je regrette que, par contre, toutes les associations de solidarité ne soient pas soutenues, je l'ai déjà dénoncé en conseil municipal à plusieurs reprises, la mise à l'écart du Secours Populaire, par exemple, pour moi, est insupportable.
C'est-à-dire que vous souhaiteriez qu'on aide davantage les associations caritatives?
Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, elles ont besoin de soutien, comme le fait la région Occitanie, par exemple. La région Occitanie, en livrant des repas de première nécessité pour le public, notamment sur des produits de production locaux, donc, permet effectivement d'abonder la banque alimentaire. Et c'est une très bonne chose, voilà, c'est une très bonne chose.
Je posais la question à Thierry Deville, jeudi dernier, ici, à ce même micro. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin, justement, sur l'aide et construire, quelque part, une résilience du territoire, on parle du Grand Montauban, mais une résilience économique, de façon à ce que, en cas de pandémie ou de crise majeure, comme celle que nous vivons, un système se mettre en place pour éviter d'avoir recours systématiquement à des produits d'ailleurs, qui viennent de très loin. Est-ce que c'est difficile à envisager un mode de résilience économique sur un territoire ?
Mais je pense que la question aujourd'hui, elle est de réfléchir ensemble, collectivement, aux moyens de production et vers qui on s'adresse, vers qui on se tourne lorsqu'on veut acheter des produits de première nécessité. Et je crois que les circuits courts aujourd'hui sont certainement, très certainement, une solution qu'on peut apporter pour avoir à proximité, sans attendre qu'on ait des livraisons, effectivement, qui viennent de droite et de gauche. Voilà,
ça marche, le circuit court.
Ça marche.
Mais est-ce qu'une entité comme le Grand Montauban, par exemple, ne pourrait pas aider, suivre
Dans le cadre de la campagne municipale, par exemple, nous avions porté au sein de l'alternative, donc, effectivement, un projet qui était véritablement orienté sur la recherche, favoriser la recherche de circuits courts. Donc, effectivement, ça pourrait être aussi, dans le cadre de la politique de la ville, réserver des terres pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Donc, ça marche, effectivement. On le voit aujourd'hui que c'est la solution. Cette pandémie, s'il y a une leçon qui est à retenir cette pandémie, c'est effectivement on a remis de la proximité dans les achats de premières nécessités. Il y a des gens qui maintenant favorisent ces circuits courts et qui sont en recherche de lieux. Donc effectivement, je pense qu'on pourrait très bien imaginer une politique territoriale qui intensifie un petit peu ce processus.
Alors en réponse, quelque part, ça fait le lien avec ce dont on vient de parler en réponse au sentiment de beaucoup de citoyens qui ne se sentent pas suffisamment en adéquation avec les décisions qui sont prises pour eux sur le territoire par le personnel politique, au sentiment de défiance aussi envers les politiques. Certaines collectivités ont ouvert leur fonctionnement à des citoyens volontaires au sein de commissions thématiques. Ces citoyens, responsables associatifs ou simples habitants, enrichissent la réflexion et les propositions de l'intercommunalité, par exemple, au profit des territoires pour une dynamique complémentaire. Est-ce que, sans droit au vote, bien sûr, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ?
C'est le lit de la création de Montauban Citoyenne, auquel le Parti communiste appartient, hein, au niveau des élections municipales à Montauban. C'est-à-dire que faire en sorte que le citoyen ait un droit de parole et un droit de prise de décision dans la vie politique, dans la vie quotidienne de la ville.
Sans droit de vote, parce qu'il n'y a
sans
pas
droit de vote, mais il y a des commissions. Il y a des commissions. Nous, ce qu'on proposait de créer, c'est des véritables quartiers, des conseils de quartier citoyens, hein, avec, en allant jusqu'à la gestion de budget participatif dans lesquels les citoyens pouvaient effectivement donner leur priorité par rapport à des projets qui étaient élaborés collectivement. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui, moi, me paraît essentiel. Si on veut aujourd'hui rapprocher les citoyens du monde politique, on ne peut pas s'éviter de passer par ce genre d'initiative.
Vous êtes élu, Monsieur Portelès. Pourquoi c'est un projet que vous ne portez pas
Mais on l'a porté dans les élections municipales, on l'a porté dans le programme.
Pas dans la campagne, mais maintenant, vous êtes élu, certes, de l'opposition, mais est-ce que vous dites que Monsieur Labriole écoute, est-ce que ça, c'est un projet que vous pourriez
Et systématiquement, quand on le peut, nous, on renvoie vers la vie des citoyennes, dans la vie quotidienne. Par exemple, alors, on est sur l'ancien mandat, là, mais sur le projet de rénovation du centre-ville, sur le projet... nous, on avait sollicité, on avait dit est-ce que ça correspondait véritablement donc aux souhaits des habitants de Montauban. Donc, on nous renvoie sur... on nous répondait jusqu'à maintenant que la majorité avait mis en place des quartiers, des réunions de quartier, des conseils de quartier.
Qui existent,
mais ces conseils de quartier, moi, pour y avoir assisté, ces conseils de quartier ne sont que des chambres d'enregistrement ou des présentations de projets qui sont déjà élaborés dans des lieux...
Sans réelle initiative citoyenne.
Enfin, me semble-t-il, en tout cas, moi, et je pense qu'effectivement, nous, la notion de Montauban Citoyenne, la notion de cohabitation et de collaboration avec les citoyens, c'était quelque chose qui se faisait au quotidien, et on pouvait même aller jusqu'à des commissions extrêmement municipale qui pouvait effectivement interférer avec le conseil municipal, quoi, voilà, de façon à orienter les décisions.
Vous évoquez très souvent, depuis le début de notre entretien, Montauban Citoyenne, vous avez été très proche d'Arnaud Hillion au sein de l'Alternative pour Montauban. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, en quelque sorte, vous êtes émancipé de ce rassemblement que vous aviez constitué avec Arnaud Hillion et le Parti radical de gauche, ce qui avait formé l'Alternative
pour Montauban. C'est tout récent, hein, oui. Ça s'est décidé la semaine dernière. On avait cette réflexion depuis plusieurs mois déjà. Bon, donc nous avons favorisé dès le départ de la campagne le plus vaste rassemblement. Voilà, rassemblement de toute la gauche.
Et Parti radical de gauche.
Il y avait le PS, Parti radical de gauche.
Europe Écologie Les Verts.
Les Gilets Verts, Génération S, Parti communiste, Montauban Citoyenne. Donc voilà, on avait réussi cet exploit, je dirais, parce que c'était pas évident dès le premier tour de se rassembler. Et puis en fait, au fil du fonctionnement, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas la place qu'il espérait. Voilà, en fait, en termes d'expression, en termes de reconnaissance. Et donc nos adhérents, nos militants, nous l'ont fait ressentir régulièrement. On disparaissait un petit peu de la place. Montauban Citoyenne existe depuis 2014. Montauban Citoyenne est élu sur les deux derniers mandats. Donc, Montauban Citoyenne est reconnu. Il communique régulièrement à l'aide de son journal vers la population, lui faisant les comptes rendus de la vie politique montalmanaise. On fait des réunions. Alors là, effectivement, depuis un an, ces réunions, c'est plus compliqué. Hein. Déjà,
est-ce que vous fragilisez pas, Monsieur Portelès ? Est-ce que vous. Finalement, ça n'équivaut pas à faire disparaître l'opposition des radars.
Absolument pas. Non. Je pense que la diversité n'est pas la diversité de l'opposition ne sera pas un frein à la force de l'opposition. Je pense qu'au contraire, chacun pourra s'exprimer plus librement et ça amènera un plus, à mon avis, même à l'opposition, comme ça a été le cas sur les deux derniers précédents mandats.
Et pas de friture sur la ligne entre vous et Arnaud Hillion.
J'aime beaucoup Arnaud Hillion. C'est quelqu'un qui a fait une belle campagne. J'ai beaucoup de d'amitié pour Arnaud. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, nous, Montauban Citoyenne, d'avoir un lieu, une reconnaissance, un lieu de parole qui soit bien identifié. À travers l'alternative, on avait l'impression qu'effectivement,
est-ce
on
que était en train de disparaître. Citoyenne, c'est le Parti communiste français, quelque part?
Pas oui, du tout. Non. Ah non, mais il y a plus de la moitié des adhérents de Montauban Citoyenne ne sont pas adhérents du Parti communiste. Mmh. Donc Montauban Citoyenne, voilà, est un rassemblement dans lequel il y a le Parti communiste. Il y a eu d'autres partis politiques auparavant qui ne sont plus aujourd'hui pour diverses raisons. Mais en tout cas, même s'il y a effectivement un rapprochement, il n'y a pas de corrélation entre être adhérent au Parti communiste et Montauban Citoyenne, bien au-delà.
Et sur le Parti communiste, a-t-il des raisons a-t-il encore des raisons d'être, finalement, ce parti ?
Ben, j'espère, heureusement. Oui. Heureusement, c'est le parti de l'émancipation, c'est le parti de la révolution quotidienne, de la vie quotidienne, et c'est le parti, d'ailleurs, vous savez, c'est le parti qui a le plus d'adhérents au plan national. C'est le parti qui a le plus d'élus au plan national. Donc, le Parti communiste a toute sa place dans le rayonnement politique, bien sûr.
Dans le paysage, dans les médias, on voit Jean-Luc Mélenchon ou des représentants de la France insoumise... qui sont aussi des défenseurs des travailleurs. Est-ce que ce parti, finalement, la France Insoumise, a pris la place du Parti communiste pour la défense des travailleurs ? Est-ce que vous avez ce sentiment aussi
Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Je pense que le Parti communiste a souffert peut-être d'une navigation à vue ces dernières décennies. Depuis Robert Hue, il a eu du mal peut-être à se positionner. Donc voilà. Mais sa place, elle est totalement reconnue. Elle est indispensable. Et je pense que Fabien Roussel est un personnage, est un homme politique d'envergure qui a la possibilité peut-être d'apparaître un peu plus dans le paysage politique aujourd'hui national. Yann Brossa fait une campagne extraordinaire au niveau des régionales, au niveau des européennes. Voilà, donc.
Une question de politique nationale, si vous permettez. Est-ce que vous, à titre personnel, vous souhaitez, par exemple, qu'il y ait un candidat communiste à l'élection présidentielle, ou vous souhaitez, avant le premier tour, un rassemblement des forces de gauche?
Alors, on est très partagé. Ouais. Une multiplicité de candidats à gauche fera en sorte qu'il n'y aura pas de candidat de second tour à gauche. Donc, il faut tout faire pour favoriser le rassemblement dès le premier tour d'un candidat unique pour la gauche. Mais pour autant...
Qui irait d'Europe Écologie au Parti Socialiste
tous ceux qui voudront venir, tous ceux qui voudront venir, parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment...
Tous ceux qui voudront venir, vous savez comment ça se passe, les égos souvent...
Je sais bien, mais c'est ça, le problème est là. Alors, effectivement, avec Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, c'est compliqué, il est déjà en campagne, il nous a fait déjà les deux dernières campagnes présidentielles de la même façon, c'est-à-dire qu'il est parti tout seul, de suite, avant tout le monde. Donc comment voulez-vous ? C'est compliqué, donc il y a des égos. Donc je pense qu'effectivement, la place du Parti communiste, c'est d'apparaître aussi dans cette campagne présidentielle, cette campagne nationale. Et si, à un moment donné, il faut privilégier le rassemblement, eh bien, il sera temps de laisser la place au rassemblement. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'affirmation de la candidature, le Parti communiste a toute légitimité à présenter un candidat.
Est-ce que vous serez candidat, vous, aux élections départementales ou régionales, Rodolphe Portelès ? Est-ce que vous avez pris cette décision ?
Alors, je serai candidat, ou dans l'une ou dans l'autre, je ne sais
vous
pas encore, ce n'est pas encore définitif, tout n'est pas encore arrêté, il y a des tractations, des négociations, bien sûr. Il y a des possibilités de candidat sur les élections régionales. Je pense que le bilan de la majorité régionale est un bilan qui est extrêmement positif, à mon sens, et même...
Vous pourriez être dans la liste de Carole Delga ?
Je pourrais être dans la liste de Carole Delga, oui, effectivement, c'est une hypothèse aujourd'hui. C'est une hypothèse de réflexion, voilà. Si je n'y étais pas, effectivement, à ce moment-là, je pourrais, effectivement, comme je l'ai fait lors des deux dernières précédentes campagnes sur les départementales, être candidat sur les départementales.
D'accord. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui, Rodolphe Portelès ?
Alors c'est l'injustice, ça c'est quelque chose qui pour moi est énorme, l'injustice, c'est les inégalités. Et la souffrance, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la société est de plus en plus inégalitaire, et ça, c'est quelque chose qui est révoltant quand on sait que 40 ou 50 familles se partagent des milliards d'euros en France, et qu'à côté de ça, il y a des millions de personnes qui souffrent au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est insupportable à mes yeux, voilà quoi, ce qui est insupportable. Donc mon action au quotidien, elle est là, quoi, dénoncer ça et être aux côtés de ceux qui souffrent.
Est-ce qu'il y a une dimension écologique de la pandémie, selon vous,
Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est évident. Alors, de la pandémie directement liée, non, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut supposer, on peut émettre des hypothèses qu'effectivement, cette propagation de virus, ces changements climatiques, ben forcément, ont des conséquences sur l'activité humaine, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a une semaine, il faisait 25 degrés dans l'est de la France. Hier, il neigeait, et il faisait moins 2 ou moins 3, moins 6 dans certaines régions. Donc, ces écarts de température qu'on ne connaissait pas auparavant, ces tempêtes qui se succèdent, la dérive du Gulf Stream, par exemple, sur les côtes d'ouest de la France, permettent de faire rentrer des courants d'air froid sur notre pays qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, effectivement, forcément que ça n'a pas une action directe, mais indirectement, la pandémie a un lien aussi avec les dérives climatiques.
Justement, sur le climat, il y a ce projet de loi climat qui est en cours d'examen la semaine dernière. Quel est votre avis? D'ailleurs, il faut préciser qu'il a été rendu possible, ce projet de loi, grâce à la convention citoyenne qui a été... Est-ce qu'elle a été utile, cette convention? Est-ce que cette loi climat, elle répond à vos attentes?
Non, elle répond pas aux attentes. Je pense que ça a été une grande campagne d'affichage au niveau du gouvernement. D'ailleurs, même les membres de cette convention
citoyenne
le dénoncent, en disant que finalement elle a été dépourvue de toute sa saveur, quoi. Il ne reste plus grand chose, en fait. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de communication à travers ça. D'ailleurs, encore ces dernières heures, là, des ministres sont montés au créneau dans les assemblées pour dire, se glorifier d'un classement de la France qui serait à la 4e place au niveau mondial sur la politique
règlement climatique, climatique.
Voilà, donc, alors en fait, quand on creuse un petit peu, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que si elle atteint ce classement-là, et c'est totalement artificiel, c'est simplement lié par rapport aux effets d'annonces politiques qui sont prises en compte, qui rapportent des points, mais dans les actes, dans les faits, la France a été condamnée encore au mois de février pour son inaction par rapport au dérèglement climatique. Donc voilà, donc on est sur beaucoup d'effets d'annonces.
Rodolphe Portolès, sur les affaires... local. La délégation de séances publiques, par exemple, le choix du délégataire concernant l'eau, vous avez accusé la majorité du Grand Montauban de ne pas avoir étudié la possibilité de passer en service,
régie. Ce n'est pas moi qui...
Le groupe d'opposition. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire un service directement géré par la municipalité. Pourquoi vous avez souhaité? Est-ce que c'est finalement des coups d'épée dans l'eau que
Non, je pense que il y a de l'idéologie derrière tout ça. Donc voilà. Donc en fait, j'ai écouté l'émission avec Thierry Deville la semaine dernière. Donc effectivement, lui s'en défend et il dit qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par les délégations de services publics. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait pendant des décennies alors qu'on l'avait en régie.
Il vous dit aussi qu'il y a des collectivités, y compris communistes.
Oui, il parle de Lille notamment. Il fait citer Lille, par exemple. Voilà. Ouais. Mais je pourrais citer aussi Castres,
qui est dans
notre région qui est de droite. Castres est passé, a repris en régie.
Comprendre, pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que c'est mieux la régie, c'est-à-dire que l'eau soit gérée directement par la collectivité, ou est-ce que c'est mieux de le faire passer en
partenariat? Prenons l'exemple de ce renouvellement de délégation de service public, donc qui a été étudié, non plus au niveau de la ville, mais avec la loi NOTRe. C'est une compétence qui a basculé donc sur
l'intercommunalité.
Donc, ne croyons pas que ces grandes entreprises comme Veolia, comme Lassor, entre autres, puisque c'est les deux qui sont concernés, sont des mécènes. Ce ne sont pas des mécènes. Mais je ne leur jette pas la pierre. Ils sont dans une logique libérale de faire de l'argent. Voilà. Donc leur objectif in fine, c'est quoi? C'est de rentabiliser leur engagement sur Montauban. Donc rentabiliser, c'est faire de l'argent. Donc si on regarde, par exemple, la délégation de service public qui vient d'être votée en communauté d'agglo pour l'eau et pour l'assainissement, on passe de 5 ans, on passe à 15 ans, donc on a multiplié par 3 la durée de la délégation de service public, mais par contre la redevance qui est de 2,6 millions qui est reversée à la collectivité par le délégataire, elle n'a pas augmenté. Donc elle reste la même, identique à celle qu'elle était auparavant, alors que la délégation était de 5 ans. Le champ, le territoire a été multiplié par 5, 6 par rapport à ce qui qui était sur Montauban auparavant, est-ce que pour autant ce qui est reversé par le délégataire est supérieur? Non, il reste le même. Les grands travaux sont nécessaires, donc pour éviter d'augmenter complètement le prix de l'eau et le prix du mètre cube d'eau ou l'abonnement à l'assainissement, eh bien les grands travaux ont été sortis de la DSP alors qu'initialement ils étaient prévus dans la délégation. C'est le Grand Montauban qui va faire les grands travaux. Donc c'est un leurre de penser que ces grandes entreprises, ce sont des mécènes, qu'elles sont là pour accompagner au mieux. Non, elles sont là pour faire de l'argent, c'est leur logique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a toute possibilité de reprendre en régie, malgré ce que peuvent en dire certains.
Alors, très 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 rapidement, Rodolphe Portelès, vous avez écouté donc Thierry Diville. Quand il vous accuse d'avancer des arguments fallacieux et politiques, est-ce que... Finalement,
on est sur des postures. Vous savez, on va ce soir en délégation, en conseil d'agglo, on a un conseil communautaire ce soir. Il y a le budget sur le transport. Nous, on a bataillé pour la gratuité du transport, par exemple. Est-ce que vous savez quel est le montant que représente le prix des ventes des billets sur le transport collectif? C'est 180 000 euros. Est-ce que sur un budget de plus de 100 millions pour l'intercommunalité de Montauban, on n'est pas capable de mettre en parenthèse 180 000 euros pour mettre la gratuité des transports? On est sur des postures politiques.
Merci beaucoup, Rodolphe Portelès. Vous reviendrez pour les élections régionales ou départementales, puisque ce n'est pas encore calé.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec Jean-Philippe Béziers, maire de Castel-Sarrazin et vice-président du conseil départemental.
Merci Kader, c'était votre mag consacré au Tarn-et-Garonne. Il sera rediffusé ce soir à 17h et à 21h30, et bien évidemment en podcast sur cfmradio.fr.